Le Grand Dialogue.
Sigika Foba.
Edowani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dmoni.
Chenni Beri. Sigika Foba. Le Grand Dialogue.
Du franc malien au franc CFA, qu'est-ce qui a changé dans l'économie malienne? C'est le thème central de notre Grand Dialogue de ce soir, une émission qui rentre dans nos séries de production sur le 22 septembre, date de l'indépendance du Mali. Le franc malien fut mis en place le 1er juillet 1962 dans la continuité de la logique d'indépendance du pays. 22 ans après, cette monnaie a été remplacée par le franc CFA. Pour parler de cette situation, nos invités, tous des économistes, sont Moribo Mao Makalou, Dr Lamine Keïta, économiste également et auteur de plusieurs livres sur l'économie, Khalid Dembélé, économiste et chercheur au CRAPES. Je suis Mariam Maïga. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
La première question sera adressée à Moribo Mao Makalou. Comment se porte aujourd'hui l'économie malienne?
L'économie malienne n'est pas très reluisante, mais elle vient de se sortir d'une passe un peu difficile avec la Covid. Comme vous le savez, il y a eu une récession en 2020 à cause de la crise multidimensionnelle que nous vivons, mais aussi de la pandémie sanitaire. Donc nous avons eu une croissance de moins 2 en 2020, alors que ces 30 dernières années, le taux de croissance économique moyen était d'environ 5%. Mais selon les estimations du ministère de l'économie et des finances du Mali, il semblerait qu'on puisse tabler sur environ 4% de croissance économique en 2021. Donc, cela dépend des hypothèses sous-jacentes. Il faut une bonne pluviométrie, etc., et que l'insécurité diminue et que aussi qu'il y ait la stabilité aussi des matières premières que nous exportons sur le marché international.
Khalid Dembélé, votre regard sur l'économie malienne aujourd'hui?
Il est évident qu'aujourd'hui, nous traversons une situation, à la suite de M. Makalou, une situation assez difficile, à l'instar de ce qu'on peut constater à travers justement l'économie mondiale. Il a évoqué la crise de Covid, son impact n'est pas spécifique au Mali, mais il faut reconnaître que d'un pays à un autre pays, les spécificités internes ne font que les conséquences économiques dans l'observation sont beaucoup plus graves d'un pays à un autre pays. Donc il est évident qu'aujourd'hui, l'heure est à une nouvelle construction, à une nouvelle application d'une vision qui pourra nous permettre justement de poser ce qu'on appelle les vraies bases d'un bon développement économique. Donc, l'heure est vraiment la réflexion. Sinon, difficilement, je ne pense pas que la situation est aussi satisfaisante.
La situation n'est pas satisfaisante également pour vous, docteur Lamine Keïta?
Bonjour madame, bonjour monsieur. En fait, la question elle est excessivement précise, mais la situation est assez complexe en même temps. Et comme on l'a déjà dit avant moi, le contexte international de crise qui est là, donc on en prend une partie parce qu'on est lié au reste du monde. L'autre aspect également, c'est que de manière spécifique, nous connaissons une crise interne. Le Mali est en situation de guerre. Et ça aussi, c'est quelque chose qui bloque les anticipations. Quand on n'est pas tranquille, on ne peut pas envisager l'avenir avec beaucoup de sérénité. Le projet que les gens veulent faire, ils vont le tasser un peu en attendant de voir plus clair. Et la sécurité n'est pas à cela. Donc avec tous ces éléments réunis, en fait, la situation est assez difficile et qu'il faut certainement chercher à stabiliser, notamment en matière de sécurité. Parce que sans sécurité, on a beaucoup à avoir de croissance, la tranquillité ne suit pas. Donc c'est une croissance qu'on va avoir dans les chiffres, mais dans la réalité, dans l'activité économique, quand on voit l'état des gens, ils vont vous demander où part cette croissance. Donc la situation est un peu difficile, et de manière générale, mais de manière spécifique encore, la crise sécuritaire encore en ajoute encore à la crise sanitaire au Mali.
Alors vous gardez la parole, quelle est la place de la monnaie donc dans l'économie d'un pays?
Bon, l'économie c'est un tout. Ce sont des hommes, des femmes qui travaillent, qui anticipent, qui prennent des risques et un État également qui gère. C'est vrai, chacun va utiliser à l'intérieur la monnaie. Donc, c'est un instrument que chacun va utiliser. Parce que la monnaie, c'est la façon de traduire. Si vous avez un projet en tête, la monnaie le traduit en chiffres. et en activité. Donc, il est la monnaie dans tous les rois de l'activité économique. Cela dit, on ne se le rend directement comme ça responsable dans une situation globale, mais son analyse peut être menée de manière un peu plus séparée.
Modibo Mahamakalu, du franc malien au franc CFA, laquelle des périodes a été bénéfique pour le Mali?
Question difficile et complexe, mais bon, il faut replacer les choses dans leur contexte. Comme vous le savez, nous avons acquis notre indépendance dans la douleur, parce que la Fédération du Mali a acquis son indépendance le 20 juin 1960. Et comme vous le savez, cette fédération entre la République soudanaise et la République du Sénégal a éclaté la nuit du 19 au 20 août 1960. Donc le 22 septembre 1960, la République du Mali a été proclamée par Modibo Keïta, qui est devenu le premier président du Conseil. Donc c'est suite à cela que un plan de développement économique et social, ce qu'on appelle le plan quinquennal, c'est-à-dire sur 5 ans, sur la période 1961-1965, a été élaboré. C'était pour jeter les bases d'une nouvelle économie, parce que nous sortions d'une économie coloniale, évidemment. Déjà en 1959, 80%, à l'indépendance, 80% de nos importations venaient de la France, la puissance coloniale. Mais aussi, en fait, le fait que nous soyons dans une fédération avec le Sénégal, avait fait que notre économie était assez extravertie. Donc, il fallait asseoir la base d'une économie socialiste, planifiée, et une économie indépendante. Donc, il fallait aller vers une transformation structurelle. Donc, cela a été la base, sur la base d'un projet politique au niveau de l'Union soudanaise RDA à l'époque. Et c'est sur cette base qu'une monnaie nationale a été créée. Parce que, vous savez, le 12 mai 1962, c'est que l'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, avait été créée, qui comportait 6 pays. Donc, ces 6 pays, le Mali avait déjà signé cet accord de coopération monétaire, mais le Mali n'a pas ratifié. Et le 30 juin 1962... le président Modibo Keïta s'est adressé à l'Assemblée nationale pour annoncer la création du franc malien. Et le 1er juillet, le franc malien est entré en circulation. Donc, le franc malien, de même que la République du Mali, est né dans la douleur. Donc, malheureusement, on pourra aller dans les détails après, nous avons quitté la zone franc, mais nous y sommes revenus. Et cela a été effectif en 1984, avec le retour du Mali dans l'UMOA.
Khalid Dembélé, du franc malien au franc CFA, qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans l'économie du Mali?
Du franc malien au franc CFA, moi je pense que c'est la vision économique qui a changé. Si vous remontez un peu aux années de l'indépendance 1960, le président Modibo Keïta, c'était une double vision de l'indépendance. L'indépendance à la fois politique mais aussi économique. Cela nous renvoie, pourquoi une indépendance économique? Ça nous renvoie à la question que vous venez de poser, docteur Keïta, en rapport au rôle même de la monnaie dans une économie. Parce que de tout temps, dans l'évolution même de l'histoire de la pensée économique, même de l'humanité, vous allez vous rendre compte que les économistes n'ont pas tout le temps été d'accord, même aujourd'hui ça existe, il y a différents courants, n'ont pas tout le temps été d'accord quant au rôle de la monnaie sur le plan théorique. Cela a commencé depuis le 16e siècle, sur le plan formel, 16e, 17e siècle, avec un économiste français, Jean Boudin, qui à l'époque avait une conception de monnaie comme étant un instrument qui permet justement de dynamiser l'activité économique. En face de lui, d'autres économistes, notamment M. Malestroit, lui, il pense le contraire. 18e siècle, cette confrontation idéologique continuait. Jusqu'à 19e, 20e siècle, les choses ont commencé à se cristalliser et on se rend compte qu'il y a deux blocs qui se dégagent aujourd'hui. Le bloc de ceux-là qui pensent que la monnaie a une vraie fonction dans l'économie, la monnaie a une fonction motrice dans l'économie. La monnaie permet, avec un bon mécanisme de système monétaire, de relancer l'activité économique. Et ceux qui pensent que, la monnaie, on la réduit tout simplement à un simple instrument d'échange, point. Donc vous avez les keynésiens d'une part et les classiques d'autre part. Modibo Keïta, pourquoi ce rappel historique par rapport au rôle de la monnaie? Parce qu'il voyait en cet instrument-là, au-delà de l'aspect politique, souveraineté, parce que oui, la monnaie est une institution, cela est démontré aujourd'hui, c'est un élément de souveraineté, mais au-delà de tout cela, sur le plan économique, la monnaie peut jouer un rôle déterminant dans ce qu'on appelle la croissance et le développement économique. Donc, 1962-1963-64, c'était une vision de développement économique fondée sur ce qu'on appelle une vision de la conception interne acceptée de la monnaie. Donc, quand on revient en 84, d'abord, il y a eu des difficultés, peut-être qu'on a le temps de développer, mais en revenant en 84, c'est cette vision aussi qui change quelque peu. Parce que qui dit 84 dit politique d'ajustement structurel, qui dit 84 dit justement la privatisation d'un certain nombre d'entreprises publiques qui, à l'époque, avaient été mises en place, même si, quelque part, il faut reconnaître qu'ils traversaient ces entreprises des difficultés ici et là. Donc, qu'est-ce qui a changé? C'est la vision même quant au développement économique qui a changé. De 60 à 68, il y avait une vision de développement économique clairement définie. On savait pourquoi, même si les choses n'ont pas marché comme il le fallait. Mais oui, aujourd'hui, force est de reconnaître qu'il est très difficile de dire voici un plan de développement cohérent. Tout cela aussi, il y a d'autres facteurs exogènes qui rentrent dans le jeu.
À la suite de ce que vient de dire Khalid Dembélé, Dr Lamine Keïta, quels ont été les avantages donc du franc CFA, et du franc malien plutôt?
Oui, en fait, du franc malien au franc CFA, c'est vrai que ce changement-là dénote également un changement de politique. Modibo Keïta, avec l'option socialiste, il avait opté pour une solution interne de développement. Il fallait jeter les bases internes du vrai développement. Et cela, l'instrument monétaire était nécessaire. Il ne fallait pas attendre de midi à 14 heures. Il fallait avoir cet instrument-là, il fallait avoir sa monnaie nationale. Ça nous a permis effectivement de bâtir les bases d'un véritable développement au niveau local. Toute l'industrie agricole, tout ça, toutes les sociétés d'État sont toutes arrivées à cette époque-là. Donc, sur ce plan, ce moyen a eu des effets réels. Mais par la suite, il fallait revenir encore en arrière, parce que revenir en arrière, c'est-à-dire intégrer avant ça, d'abord, il y a une phase de dévaluation du marque franc malien qu'on a connue. Et après ça, maintenant, il fallait réintégrer l'utilisation du franc CFA. Donc, ça veut dire quelque part, il y a eu un échec quelque part. S'il faut abandonner sa monnaie nationale pour revenir à la monnaie commune, ça veut dire quelque part également, il y a une leçon qui a été tirée. Alors, donc, une fois qu'on fait ça, ça veut dire qu'on renonce aussi à cette souveraineté monétaire qu'on confie à une instance régionale. Donc c'est un changement à ce niveau. Et ce n'est pas seulement un changement de nature, mais en profondeur également, c'est un changement parce que les années 70 déjà, 80, on était rentré dans une phase pratiquement d'ajustement structurel. Mais en termes très simples, c'était un peu le démantèlement de tout ce qui avait été fait pratiquement avec le franc malien. Donc nos sociétés d'État, la privatisation, les dégraissements des effectifs, etc. Donc, effectivement, il y a deux grandes phases. Une phase de construction avec le franc malien, une phase de déstructuration, de déstabilisation, on appelait ça, c'est le marché. On a pensé que c'est la vérité du prix, c'est le marché qui le fixe. Donc, il fallait démanteler tout ce qui était étatique et puis on va aller de plus en plus vers le marché. On a connu donc des dégraissements massifs, des pertes d'emplois, des ajustements. Et finalement, on a entendu une forme de macroéconomie financière où on a constaté que les indicateurs macroéconomiques s'amélioraient. Mais en réalité, quand on regarde de près, beaucoup d'autres indicateurs au plan social battaient de l'aile. Donc un peu les deux phases, je pourrais dire, que caractérisent un peu le choix politique qui a été fait au plus haut niveau pour le développement du pays.
Modibo Mahamakalu, quels ont été les progrès réalisés par le franc malien?
Bien, écoutez, d'abord, pour revenir à ce que c'est qu'une monnaie, vous savez, la politique économique a deux leviers principaux. La politique fiscale, c'est-à-dire les recettes et les dépenses de l'État, et la politique monétaire. La politique monétaire consiste à assurer la stabilité économique et financière, surtout la stabilité des prix. Parce que qui dit monnaie, parce que vous savez, l'institut d'émission, le pouvoir régalien de battre monnaie appartient à l'État. Ce sont les États seuls qui peuvent battre monnaie, c'est-à-dire qui peuvent émettre des billets et des pièces de monnaie. La première banque centrale qui existe, qui a existé pour la période au Moyen Âge, c'était en 1694, c'était la Banque d'Angleterre. Et donc, en tant que Bank of England, c'est celle qui a été la première à émettre des billets et des pièces de monnaie sous la forme actuelle que nous connaissons aujourd'hui, avec le concours du secteur privé. Mais maintenant, l'institut d'émission, la banque centrale, a un objectif spécifique, c'est-à-dire c'est d'assurer l'ajustement externe, l'équilibre de la balance des paiements. La balance des paiements, c'est le tableau économique de toutes les transactions économiques entre un pays et ses partenaires étrangers. Donc, votre monnaie, c'est votre pouvoir d'achat. Parce que la monnaie, c'est elle qui permet de réglementer, enfin, d'assurer les échanges entre les États. Et aussi, parce que c'est Aristote qui a défini ce que c'est qu'une monnaie. Il a dit d'abord que c'est une unité de compte, c'est une réserve de valeur et c'est un moyen d'échange. Donc, vous avez d'abord la monnaie fiduciaire, qui vient du mot latin fiducia, qui veut dire confiance. Et ça, ce sont les billets et les pièces de monnaie. Parce que quand vous voyez, quand on vous donne 1 000 francs CFA aujourd'hui, la Banque centrale promet de payer 1 000 francs, cette valeur, en 1 000 francs CFA. Mais ça ne veut pas dire que ce billet vaut 1 000 francs CFA. Donc c'est parce que nous avons confiance en notre Banque centrale, en sa qualité d'institut d'émission, que nous acceptons que cette valeur fait 1 000 francs. Mais aussi vous avez la monnaie scripturale, ça veut dire en écriture, qui est la monnaie électronique. Ce sont les dépôts en vue, c'est la monnaie électronique, c'est le e-money, ce sont les crypto-monnaies. Mais tout cela est réglementé par les écritures. Donc tout ce qui n'est pas billet et pièce de monnaie, c'est de la monnaie scripturale, les cartes de crédit, les cartes de débit, etc., tout ce que nous voyons aujourd'hui. Donc maintenant, le président Modibo Keïta a voulu assurer son indépendance économique et financière. D'abord, il voulait, comme j'ai parlé, la transformation structurelle. L'idée d'aller vers une économie socialiste planifiée, parce que prenons la structure du plan de développement économique et social sur la période 1961-1965, vous aviez environ 75% qui étaient consacrés aux infrastructures et au développement rural. 49% pour les infrastructures seules, parce qu'ils se sont rendus compte que notre pays était enclavé, vaste, et que nous n'avions pas de façade maritime. Donc pour cela, nous dépendions beaucoup de nos voisins. C'est pour cela que le Mali a toujours prôné la fédération, parce que nous n'avions pas de port. Mais aussi, il y a quand même eu l'accent sur les ressources humaines, mais il y avait des difficultés structurelles. Est-ce que vous saviez qu'à l'indépendance, il n'y avait que 15 cadres supérieurs au Mali. Donc, ce sont des coopérants et d'autres personnes qui sont venues assister le gouvernement du Mali dans le cadre de la coopération économique pour mettre en place ce plan avec, évidemment, la direction politique de l'Union soudanaise, RDA. Et pour cela, il fallait une monnaie nationale. Et donc, ce plan de développement économique et social tablait sur un objectif de 8%. Malheureusement, il n'a réalisé que 2,3%. Parce que l'idée, c'était de faire la substitution aux importations. Puisque je l'avais dit précédemment, 80% de nos importations, c'est-à-dire ce que nous achetons à l'extérieur, venait de la puissance coloniale. Donc il fallait voir ce que nous pouvions produire. Donc une quarantaine de sociétés et entreprises d'État ont été créées. Mais malheureusement, il y a eu des difficultés au niveau de la gestion et qui ont conduit à des difficultés économiques, politiques et sociales par la suite. Donc le franc malien, qui au départ était une aubaine, finalement a été un fardeau par la suite. Parce que Le pays était lourdement endetté. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que nous travaillons en 1962, 70% de ce que le Mali vendait à l'extérieur, exportait, c'était avec 23 pays du clearing. Clearing, ce sont les pays d'obédience socialiste. Bon. Et notre monnaie n'était pas convertie. Donc ça posait un problème structurel et qui a connu son point d'orgue avec la signature des accords franco-maliens en février et décembre 1967.
Khalid Dembélé, les devises du franc CFA sont garanties par la France, si je ne me trompe pas. Comment ça se faisait donc avec le franc malien ?
En fait, à l'époque, avec le franc malien, on avait un accord avec les Tchèques qui était effectivement d'inspiration, on va dire, communiste, socialiste, mais aussi la Bulgarie aussi, mais aussi et surtout un certain nombre de pays qui appartiennent à l'Union soviétique. Donc ce sont ces pays-là qui, tant bien que mal, nous aidaient avec des conditions de prêt, avec des conditions de garantie et autres. Mais il se trouve que oui, ce contexte international aussi était, on va dire, dominé par ce qu'on appelle une confrontation de guerre froide entre ceux-là qui appartenaient un peu aux États-Unis d'Amérique, la France et ses alliés, mais ceux-là aussi qui appartenaient un peu à la Russie. Donc à un moment donné, ces mêmes pays, la Tchécoslovaquie et les autres pays qui nous assistaient, ont commencé à avoir des difficultés, notamment dans les années 63-64. C'est ce qui a posé réellement un problème dans l'accompagnement. Et les prêts que nous effectuons avec ces pays-là, le taux d'intérêt de ces prêts ont commencé à augmenter. Et l'activité économique à l'interne n'étant pas capable de créer suffisamment de richesses pour payer ces prêts-là, cela a posé un véritable problème à ce niveau-là. Mais maintenant, pour revenir à pourquoi ça n'a pas marché, parce que c'est important. Moi, je pense que nous devons comprendre que Modibo Keïta n'a pas été le premier président à vouloir quitter la zone franc ou à vouloir créer sa monnaie. Depuis 1948, le Liban s'en est allé. En 1956, le Maroc a plié son bagage. En 1963, l'Algérie s'en va. Madagascar, la Mauritanie, ils s'en vont. Aujourd'hui, la zone franc est notre zone franc est la seule et unique dans sa conception. Cela pose un véritable problème. Donc c'est pour dire que, pour dire, ce n'est pas par orgueil ou ce n'est pas par mauvaise anticipation. Ça n'a pas réussi parce qu'il y a eu effectivement des actions qui ont été entreprises dans ce sens-là. C'est ce qui a posé ce problème-là. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans un système qui a été fondé depuis 9 septembre 1939. Nous sommes aujourd'hui en 2021, à peu près 82 ans, avec une économie, on va dire, qui traîne toujours, des populations qui végètent dans la pauvreté. C'est ce qui m'amène directement à l'objectif quand même fixé par l'institution qui prétend assurer justement la gouvernance de cette monnaie-là. Vous avez aujourd'hui la BCAO qui a un objectif de stabilité de prix. C'est bien quand le consommateur estime que son prix est stable, ça augmente son pouvoir d'achat, il peut effectivement acheter tellement de choses pour justement satisfaire ses besoins. Mais laissez-moi vous dire que nous sommes dans une zone économique et monétaire dont l'enjeu dépasse la stabilité du prix. La population de l'UEMOA, c'est chaque 25 ans que ça se dédouble. Cela voudra dire que le chômage aussi est un facteur qu'il faut prendre en compte. Donc à un moment donné, il faut sortir de ces carcans théoriques-là. Oui, stabilité du prix, mais au profit de quoi ? Au profit de quel objectif? Il est évident aujourd'hui que, c'est vrai, nous sommes dans une zone qui permet à nos commerçants de commercer à l'extérieur, mais cette zone-là, de par les principes qui gouvernent le système monétaire en soi, fait de nous, justement, des puissances exportatrices de matières premières et de consommateurs de produits finis. Et pour reconstruire l'économie, pour tourner, justement, nos productions vers la consommation interne, cela ne pourra pas se faire sans investissement. On ne pourra pas investir si le taux d'intérêt est à 12, 14, 16%. Et cela ne pourra pas aussi être diminué tant que l'objectif de stabilité de prix n'est pas revu. Parce que la BCAO, même si on ne le dit pas ouvertement, on sait que quelque part, c'est une théorie économique aussi qui justifie cela, la théorie quantitative de la monnaie d'Erwin Fischer. Vous ne voulez pas que la masse monétaire cause l'augmentation du prix, il faut réduire cette masse-là. Donc ils augmentent le taux d'intérêt qui va augmenter le taux de prêt au niveau des banques commerciales et décourager l'investissement avec un taux de chômage à deux chiffres dans la plupart de nos pays. Donc, je me dis qu'à un moment donné, cette zone-là, même si oui, l'époque franc-malien nous laisse sur notre fin, ça n'a pas marché, on regrette pour des raisons qu'on connaît maintenant, mais je pense qu'aujourd'hui, la zone franc aussi n'est pas trop enviable.
La zone franc n'est pas trop enviable. Pour Mourouba Mahoumakalou, c'était une aubaine au début, mais à la fin, ça n'a pas été le cas. Quelles ont été alors les conséquences de la sortie du franc malien pour le CFA, docteur Lamine Keïta?
Bon, on peut, a priori, on devait sortir du franc malien parce qu'il y avait une véritable impasse. Et ça, ça revient au passé maintenant. Comment gérer le franc CFA et comment atteindre les objectifs qu'on n'a pas pu atteindre avec le franc malien? Bon, effectivement, la zone CFA, déjà on parlait de la souveraineté monétaire avec le franc malien. Donc il faut accepter qu'avec le franc CFA, cette souveraineté est amoindrie. Donc on a peu d'initiatives à ce niveau. Il y a des règles globales de gestion qui maintiennent la masse monétaire au-dessous de sa capacité. C'est-à-dire que la masse monétaire est fondée sur les devises. Lorsque vous avez les devises, on prend une bonne partie qui reste en France, qui est bloqué là-bas, dans le compte d'opération qui est là-bas. Donc, du coup, la capacité qu'on avait d'avoir la masse monétaire est déjà réduite par le fait qu'on a réduit la quantité de devises qu'on peut mettre en disposition ici. Du coup, les besoins de l'économie ne sont pas totalement satisfaits. Du coup, l'argent devient très cher. Du coup, les besoins non satisfaits sont augmentés. Du coup, l'objectif de stabilité, si on a une capacité très faible, si on utilise sur leur vraie capacité les potentiels de l'économie, on a une stabilité, mais qui est dangereuse. Quand vous regardez cette stabilité-là, vous allez voir que c'est en fait une stabilité de la pauvreté. En fait, parce que quand vous regardez l'UEMOA, par exemple, le meilleur pays de l'UEMOA, c'est la Côte d'Ivoire, du point de vue de ses performances économiques. Mais quand vous regardez le classement mondial, ce meilleur élève-là, et le dernier, c'est pratiquement dans les 25 derniers pays du monde, en termes de développement humain durable. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. S'il y a un problème au niveau de la zone franc, ce n'est pas uniquement au niveau du Mali, c'est au niveau de la zone elle-même. C'est une zone qui est maintenue dans une situation de pauvreté. Cette stabilité rime avec la pauvreté finalement. Donc il y a un problème à ce niveau-là.
Alors, vous gardez la parole. Qu'est-ce qui explique que, durant cette période du franc malien, avant notre rentrée dans le franc CFA, que la monnaie a perdu jusqu'à 50% de sa valeur?
Oui, le franc malien est né dans la douleur. D'abord, il y a une première scission avec l'ancienne puissance coloniale. Et puis, le Mali devait concevoir une économie entourée de ses voisins qui sont encore dans l'obéissance de l'ancienne coloniale. Donc, l'environnement n'était pas profite pour le Mali. Donc, alors qu'il faut échanger avec ses voisins, étant un pays encore assez enclavé. Mais malgré tout, le Mali atteint beaucoup de ses objectifs de développement. Mais à la fin, effectivement, avec la limite des accords qu'on avait avec les pays partenaires, il fallait finalement retrouver régler le problème de financement qui a obligé le Mali à revenir en arrière pour intégrer finalement la zone franc. Donc, le fait qu'on ne pouvait pas continuer dans notre lancée avec le problème d'endettement qui était posé, le problème de financement qui était posé, il fallait trouver d'autres solutions, d'où notre entrée, notre retour avec les anciens partenaires. Donc, c'était un peu comme ça. Donc, la première étape atteint ses limites, il fallait trouver une autre solution. Cette solution aussi est là, on est là-dedans, mais en réalité, on n'a pas les objectifs qu'on attend parce que le développement qu'on attend, la pauvreté qu'on voulait combattre, elle est toujours là présente et en masse. Donc, en gros, je peux dire que sur ce plan, cet objectif, il reste commun à atteindre pour l'ensemble des pays de la zone franc.
Cette dévaluation du franc CFA, Khalid Dembélé, est venue d'où?
Non, il faut reconnaître qu'une monnaie aussi doit être supportée par une économie. En fait, de 60 à 68, pourquoi ça a échoué? Parce que l'économie malienne n'a pas été suffisamment forte pour supporter la monnaie, pour des raisons à la fois internes et aussi externes. Pourquoi dévaluer la monnaie à l'époque? Parce que nos économies, ou les économies de l'UEMOA étaient confrontées à ce problème de ralentissement de l'activité économique. À un moment donné, vous savez, en économie, quand une monnaie n'est pas demandée, à travers justement la vente de ces produits, la monnaie s'appauvrit, la monnaie perd sa valeur à un moment donné. C'est ce qui s'est passé en réalité, parce que nos économies sont faibles, parce que nos économies jusqu'à aujourd'hui sont, on va dire, à un stade d'insertion primaire au niveau du commerce international. Cela voudra dire quoi? Cela voudra dire que nous échangeons que des matières premières qui ne créent pas assez de chaînes de valeur, qui ne créent pas assez de recherche, ce qui fait que la monnaie n'a pas assez de valeur. Une monnaie qui n'est pas réclamée, qui n'est pas demandée, forcément, cette monnaie-là perd sa valeur. Donc, la dévaluation, quelque part, vient de là-bas. Aujourd'hui, pourquoi ça continue, qu'on ne trouve pas une solution pour rendre l'économie plus forte, afin que la monnaie puisse avoir cette puissance-là? Tout simplement parce qu'encore une fois, nous sommes dans un système monétaire. Aujourd'hui, c'est pas le débat, c'est pas le franc CFA en soi, c'est pas l'appellation qui compte, mais les mécanismes qui gouvernent le système dans lequel nous trouvons aujourd'hui. Je pense que ce sont ces mécanismes-là qu'il faut questionner. Les principes de parité fixe, le principe de convertibilité illimitée et le principe de libre transférabilité au sein de la zone. Ces principes-là, on a beau crier sur tout le toit en nous disant que oui, ce sont des principes qui justement maintiennent la stabilité, vous êtes ça. Je pense que cette stabilité est une stabilité de façade. Exemple, vous prenez par exemple la maîtrise de l'inflation. La BCAO, à travers ses différents communiqués, dit avoir maîtrisé l'inflation. Pourtant, dans nos différents pays, la cherté de la vie, tout le monde crie. Pourquoi? Parce que dans le panier, j'ai l'habitude de le dire dans mes interventions anciennes, dans le panier qui permet justement à la BCAO de calculer l'inflation, nous, nos produits de consommation quotidien ne font pas partie de ces paniers-là. Un, de deux, la puissance publique n'a pas les moyens justement de contrôler les prix plafonds-là qu'on fixe sur le marché et le faire respecter ça quotidiennement. Ce qui fait qu'il y a un taux d'inflation qui est là, qui se dit être maîtrisé, mais quelque part, la population en bas souffre parce que, encore une fois, le mécanisme en soi n'est pas bien adapté. Quand on vient au niveau de ce qu'on appelle la transférabilité, moi je pense que c'est ce qu'on appelle un trompe-l'œil. Pourquoi? Parce que ce principe de transférabilité devrait permettre au moins ça à des économies. C'est ça l'intérêt d'une union économique et monétaire. Quand on se met en union économique et monétaire, c'est pour pouvoir beaucoup échanger entre nous. Mais figurez-vous qu'aujourd'hui seulement 16% des échanges entre pays sont intra-UEMOA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pays de l'UEMOA commercent plus avec l'extérieur qu'entre les pays de l'UEMOA. Et même pourquoi? Parce que nous sommes plus des substituts que des compléments. Ce qui voudra dire que l'économie doit être transformée. Il faut des réformes structurelles. Et cela ne peut pas se faire sans financement. On ne peut pas aussi ouvrir ces ventes de crédit tant que, justement, la BCE ne décide pas à un moment donné d'injecter de la masse monétaire au niveau des banques commerciales et afin de faire baisser, justement, le taux d'intérêt. Je pense que nous sommes à ce niveau-là aujourd'hui. L'économie va mal parce que le système monétaire quelque part est biaisé.
L'économie va mal, le système monétaire est biaisé. Comment rendre notre économie forte, Modibo Momakoli?
Je vais revenir un peu en arrière, puisque vous m'aviez sauté. Si. Voilà. il faut dire que toute théorie, la validité de toute théorie, doit être démontrée par les données de l'observation. Les banques centrales sont des instituts d'émission. Mais attention, il ne faut pas tout mélanger. Il y a des banques centrales qui sont indépendantes et il y en a qui ne le sont pas. Au niveau de la politique monétaire, c'est l'autorité politique qui détermine qui va gérer la banque centrale. Et au pire des cas, la banque centrale est chargée de mettre en œuvre la politique monétaire des autorités politiques. Donc, pourquoi il faut séparer ces deux? Pourquoi nous avons des banques centrales indépendantes? C'est pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'ingérence politique. Quand on appelle le gouverneur pour dire « fais ceci, fais cela », on n'a pas une banque centrale. Donc, quand une banque centrale est indépendante, elle détermine sa politique à moyen et à long terme et elle assure la stabilité des prix. Toutes les banques centrales au monde font cela. L'Union européenne a une politique de ciblage de 2% d'inflation. C'est la première zone monétaire au monde. La Federal Reserve a un objectif de ciblage de l'inflation. La Banque de Chine a une politique de ciblage de l'inflation. Ça, ce sont les trois plus grandes économies au monde. Donc, les plus grandes comme les plus petites ciblent l'inflation parce que l'inflation est un phénomène monétaire. C'est ce que Milton Friedman a dit. Et c'est ça la réalité des choses. Parce que quand vous injectez de l'argent dans l'économie et que les biens et les services ne suivent pas, il y aura trop de monnaie pour trop peu de biens et de services. Donc ça va augmenter l'inflation. Quand il n'y a pas assez de monnaie dans l'économie pour les biens et services aussi, vous allez créer une récession. Donc c'est ça le rôle de la Banque centrale d'assurer la stabilité des prix. Maintenant, pour revenir à comment relancer nos économies, mon problème avec les banques centrales, surtout avec notre banque centrale, comme on le dit, c'est qu'en réalité, au niveau politique, en vision politique, nous avons manqué d'élaborer des politiques industrielles. Ce n'est pas la BCE seule. Vous prenez les 54 pays africains. Pourquoi l'Afrique, si vous prenez la zone franc, les 8 pays de l'Afrique de l'Ouest, les 6 pays de l'Afrique centrale, plus les Comores, ça fait 15. Et puis si vous ajoutez le Cap-Vert, qui a un accord de coopération monétaire avec l'euro aussi, l'escudo, et a une parité fixe avec l'euro, donc vous en avez 16. Sur les 54 pays africains, pourquoi nous faisons que 2% des exportations transformées à valeur ajoutée, alors que nous avons 17% de la population mondiale? Ce n'est pas la monnaie. C'est le manque de vision politique. C'est le manque d'élaboration de politiques industrielles. Si vous prenez les pays asiatiques, mais prenons même la Chine récemment, avec Deng en 79, il a élaboré une politique industrielle. Comment faire en sorte que nous créions davantage de valeur ajoutée dans nos pays? Le Mali a 90% de nos recettes d'exportation sont l'or, le coton, les animaux vivants. Combien de valeur ajoutée nous créons? Zéro. Zéro. Ça, c'est pas à cause du franc CFA. Ça, c'est parce que nous n'avons pas travaillé dans ce sens. Et nous produisons les mêmes produits entre nous, donc nous n'échangeons pas assez. Donc c'est pour cela, avec la zone de libre-échange continentale, il va falloir que nous réfléchissions à comment faire l'intégration par la production pour que les Africains puissent commercer entre eux, parce que nous allons avoir un marché de 1,4 milliard de consommateur, le plus grand marché unique au monde. C'est une opportunité pour nous Africains, non seulement d'accroître notre productivité, mais aussi de diversifier notre production et de la transformer. Quand nous la transformons, nous avons plus de valeur ajoutée, nous créons davantage d'emplois décents, et ça fait que nous pouvons améliorer les conditions de vie de nos populations. Mais nous ne le faisons pas encore et il va falloir qu'on s'y attelle.
Ali Dembélé, vous voulez réagir à la suite de ce que Mouribou Momokolo vient de dire.
Je voudrais rappeler que la problématique de l'indépendance de la Banque centrale, pour moi, ne se pose pas quand on parle de la BCAO. Parce qu'on ne peut pas être plus réaliste que le roi. C'est la BCAO qui dit à travers ses différents gouverneurs qu'elle est indépendante, qu'elle a une politique monétaire active, ça ne vient pas de Khalid Dembélé. Donc à partir de cet instant, nous ne pouvons que juger cette banque-là au regard de ce qu'elle nous fait croire, au regard de ses différents communiqués. Premier élément. Deuxième élément, je pense que réduire la fonction d'une banque centrale au seul motif de maîtrise de prix, c'est vraiment ignorer un peu l'histoire de l'évolution des banques, différentes banques centrales. M. Magalou a cité l'exemple de la BCE, la Banque Centrale Européenne, de la Fed et de la Banque Centrale Chinoise. Je veux bien, effectivement, entendre que ces banques-là ont une vision de politique de stabilité de prix. Mais aussi, rappeler quoi? Rappeler que quand on regarde le ratio PIB, crédit-PIB, c'est-à-dire la capacité des banques commerciales à donner des prêts aux citoyens sur la base de la richesse nationale créée, vous allez vous rendre compte que l'Union européenne est aux environs de 100%. L'Amérique est aux environs de 300%. Nous, la zone UEMO est aux environs à peu près de 23%. Donc cela pose un réel problème d'investissement. Parce que tant qu'on ne donne pas l'argent, on n'injecte pas l'argent dans l'économie, on ne pourra pas créer. Donc la stabilité de prix en soi, le ciblage de prix en soi, il faut cibler le prix. Mais en même temps, je pense qu'à un moment donné, il faut se rendre compte des réalités internes. Aujourd'hui, je le répète encore une fois, la stabilité, l'objectif de stabilité de prix, ce sont les faits. Ne nous avantage en strictement rien. Vous prenez des pays comme les nôtres, vous allez vous rendre compte que quand bien même que la BCE maintient
cette stabilité de prix, tant bien même qu'ils affirment qu'ils maîtrisent le prix, nous, les citoyens, nous crions que les prix augmentent. Donc, à partir de cet instant-là, on se pose la question, l'objectif, quel est son impact sur nos populations, sur nos acteurs économiques? Donc, à un moment donné, je veux bien entendre que c'est une belle théorie développée dans le temps, mais à un moment donné, moi, je pense qu'il ne faut pas se tromper des réalités internes. Aujourd'hui, les réalités internes voudraient qu'on puisse justement agir pour réduire justement le chômage. Je suis d'accord que la question monétaire est d'ordre politique. Il est évident que nous soyons en zone économique ou que nous soyons seul pays à part, les politiques doivent effectivement s'assumer à ce qu'on puisse justement avoir une vision de politique monétaire active. Mais à partir du moment où on a légué nos objectifs de politique monétaire à une institution appelée BCAO, Banque Centrale, à partir du moment où cette institution prétend être indépendante, nous, observateurs, nous ne pouvons juger l'activité économique ou la pertinence de politique économique ou politique monétaire qu'à l'image de ce qu'on nous affirme. Donc voici un peu ce que je voulais un peu restaurer comme étant mon observation.
Alors il ne nous reste que 5 petites minutes avant de clôturer cette émission. Au regard de tout ce qui vient de se dire, est-ce que le Mali peut créer aujourd'hui sa propre monnaie, revenir créer notre propre monnaie comme on le faisait, docteur Lamine Keïta?
Bon, ça c'est une question hautement stratégique, politique et extrêmement.
Est-ce que notre
dangereuse.
Économie peut supporter cela aujourd'hui?
Oui, c'est une question extrêmement dangereuse. Et je pense que de telles questions, il faut vraiment réfléchir en douce et en cachette pendant longtemps avant d'oser se prononcer là-dessus.
C'est pas possible.
Et pas que ce soit pas possible ou que ce
n'est
pas souhaitable.
Pas faisable.
Mais comme un technicien directement comme ça et qu'on vous pose la question. Je crois que la question est suffisamment dangereuse, mais l'intérêt de la population commande effectivement toutes les initiatives pour que la population puisse vivre mieux. Voilà.
Sortir du franc CFA, est-ce la solution pour le Mali pour accroître son économie, Mouribo Mahomakalou?
Sortir du franc CFA, vous savez, le Mali a fait toutes sortes de réformes depuis 61 ans. Nous sommes le pays qui a le plus d'expérience en matière monétaire que n'importe quel autre pays africain. Parce que nous avons eu notre propre monnaie, nous avions d'abord un accord de coopération. Parce que n'oubliez pas qu'en 60, chaque pays africain avait un accord bilatéral avec la France, avec un compte d'opération. Et qu'en 62, il y a eu l'UEMOA avec 6 pays. Après, la Mauritanie est sortie, le Togo est rentré en 63, et puis le Mali est rentré, entre guillemets, en 67, mais définitivement en 84. Donc, nous avons cette expérience. Mais ce que je puis dire, il est de mon avis que le franc CFA, pour le moment, je veux dire la définition d'une monnaie, qu'est-ce que ça veut dire? La monnaie, c'est votre pouvoir d'achat. Aujourd'hui, le franc CFA est une monnaie crédible. Vous savez, il y a un indicateur qui détermine la solidité d'une monnaie. Ce sont les avoirs extérieurs nets. Et ça, c'est valable pour tous les pays du monde, toutes les banques centrales. Donc, si vous arrivez à couvrir 3 mois d'importation, vos réserves extérieures nettes peuvent couvrir 3 mois d'importation, ça veut dire que vous avez une monnaie solide. L'UEMOA est à 6 mois d'importation couverte par ses réserves extérieures. Donc, nous avons 2 fois le taux. Mais il y a un hic. Le problème que j'ai avec le franc CFA et la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est qu'ils ne financent pas suffisamment l'économie. Parce que, est-ce que vous savez que le taux directeur, c'est-à-dire le taux auquel la banque centrale prête aux banques commerciales, est de 2%. Et vous et moi, nous obtenons les crédits de la banque à 8, 10, 15, 20% dans les microfinances. Ce n'est pas normal. C'est là que la volonté politique doit agir. C'est là que je dis que nos autorités politiques, parce que le gouverneur, c'est un fonctionnaire. Quelle est l'instance dirigeante de la BCAO? C'est la conférence des chefs d'État et de gouvernement. C'est qui ces personnes? Ce sont ceux qui nous dirigent. Qui les met en place? En théorie, c'est nous. Donc, s'il y a cette volonté politique de financer l'économie nationale, la Banque centrale va s'y plier. Donc, il va falloir que cela se fasse. C'est là que je dis qu'il n'y a pas de politique industrielle. Par exemple, si le Mali veut promouvoir la filière textile avec le Bénin et d'autres pays, et le Burkina, il va falloir que nous agissions dans ce sens au niveau politique et au niveau économique.
Alors,
et dernièrement, les créances douteuses.
Okay,
si vous voyez les créances douteuses dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Si je dis le montant aujourd'hui, ça va créer la panique.
Khalid Dembélé, la dernière question sera pour vous. Quelle alternative donc pour sauver l'économie malienne?
Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut se dire les choses clairement. On ne peut pas rester, pas dans le franc CFA, mais dans cette zone monétaire-là. Parce qu'à un moment donné, il faut se poser la question, c'est quoi l'objectif? Qu'est-ce que nous voulons? On fait de nous, comme il l'a évoqué, et contrairement à ce qu'on puisse penser, l'importation, une économie d'importation est vouée à une économie de pauvreté. On va se paupériser, l'inégalité va continuer. Tant qu'on n'arrive pas à transformer et à être une économie exportatrice, les choses ne vont pas bouger. Et c'est là où, quelque part, peut-être je nous rejoins. À un moment donné, je pense que la Banque centrale doit comprendre que l'enjeu, c'est le financement. L'enjeu, c'est la relance de l'activité économique. L'enjeu, c'est comment diminuer le chômage. Et en cela, le Mali seul ne pourra pas. Notre économie, de par sa structuration actuelle, on ne pourra pas supporter la mise en place d'une seule monnaie qui est propre à nous. Mais je pense qu'avec une dynamique globale, on a commencé avec la ZEC, zone de libre-échange continentale. Espérons que, à travers cela, les politiques et les dirigeants des banques centrales vont s'assumer.
Merci beaucoup, Khalid Dembélé. C'est ce qui met fin à cette émission du Grand Dialogue. Ils étaient là avec nous, tous des économistes. Modibo Mahoma Kalou, Dr Lamine Keïta, Khalid Dembélé. Je suis Mariam Maïga. À la régie vidéo son, il y avait Peting Diarra et Nuhum Djiré. Cette production rentre dans le cadre du 22 septembre, date de l'indépendance du Mali. Merci à toutes et à tous et à la prochaine.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dmondi.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba.